au réseau Cogeco. Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Alors oui, je vous l'annonçais avant le bulletin d'information et avant la pause, c'est que nous allons diffuser dans les prochaines minutes, et nous sommes toujours en attente, de la vice-première ministre, Mme Guilbeault, qui va prendre la parole. À quoi on peut s'attendre? Sabrina Rivet est avec nous. Donc, un point de presse qui se font de plus en plus rare, soit dit en passant, mais c'est peut-être un lundi en réaction à ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine et des derniers jours.
Oui, un week-end qui a été fort achalandé. D'abord, on a vu pour le port du masque, il y a eu deux manifestations, une du côté de Québec, une du côté de Montréal. Ça brassait un peu quand même dans les deux villes. On a vu, il y a des journalistes également qui se sont fait intimider lors des manifestations. Et ce qui a marqué également l'attention ce week-end, ce sont en fait les déchets qu'on a retrouvés, notamment en Gaspésie. Il y a même la députée de ce secteur-là qui a demandé à la ministre de la Sécurité publique, justement, de venir, d'aller voir, en fait, et d'avoir du renfort. On veut plus de policiers, on veut des agents de sécurité.
Ça prend
parce
des
que...
sous.
Ça prend des sous, évidemment. Mais on l'a vu, il y a des déchets qui jonchaient le sol. Il y a même, j'ai vu une photo, c'était un véhicule qui était dans l'eau, complètement dans l'eau. Donc, des gens qui laissaient vraiment, qui campaient un peu n'importe où.
Oui, ça existe, des gens qui font la plage là avec leur véhicule. Aux Îles-de-la-Madeleine, je sais que pendant un temps, je ne sais pas si c'est encore permis, mais il y a des gens qui vont sur la plage et se promènent en véhicule. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il faut passer d'un sable foncé à un sable pâle. Mm-hmm. Et quand on est dans le sable pâle, on s'enlise. Alors là, t'es pris là. Puis là, la marée monte. Alors là, il y a des gars qui t'attendent sur la butte en haut puis qui disent « On va aller te chercher avec notre 4 roues. » Puis ça coûte un 20$ ou un 50$, je ne sais pas. Mais donc, c'est clair qu'on ne va pas là comme ça. Tu sais, c'est assez particulier. Non. Et il y a le comportement aussi de certains individus qui, on en parlait en début d'émission, ont posé des gestes tout à fait inadéquats et disgracieux à l'endroit de journalistes dans des propos inacceptables en traitant de tous les noms des journalistes ou en prenant une jeune femme à bras-corps, là, à lui faisant une accolade alors qu'il n'était pas masqué, qu'elle était masquée, mais pas lui. Est-ce qu'on va à la conférence de presse? Que c'est commencé? Oui, on y va. Alors, on se rend rencontrer la ministre et vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault, qui va véritablement prendre la parole dans la minute.
Donc, avec les chiffres des derniers jours que vous avez sans doute suivis quotidiennement, qui sont disponibles maintenant par l'entremise, notamment de mon collègue Christian, vous pouvez percevoir que la situation continue d'être sous contrôle au Québec. On a une augmentation du nombre de cas quotidiens qui est relativement stable. On a aussi une bonne marge de manœuvre dans nos hôpitaux. Et on continue évidemment de suivre avec beaucoup d'attention la situation, l'évolution de la contagion. On a dépassé la semaine dernière notre objectif de capacité de test quotidien, ce qui fait qu'avec cet effort de dépistage très important, on sera en mesure, si on devait détecter une reprise de la contagion ou un mouvement inquiétant dans la courbe de contagion, on sera en mesure de réagir très, très rapidement du fait qu'on est capable d'avoir ce portrait en temps réel grâce, entre autres, à notre capacité de tester. Néanmoins, on observe une tendance qui est inquiétante chez nos adolescents et chez nos jeunes de 15 à 34 ans, avec des éclosions, entre autres dans les bars, on en a déjà parlé, mais aussi dans les parties privées, si vous me passez l'expression, donc les rassemblements privés, les parties que les jeunes font ensemble, et aussi dans certaines activités sportives et sociales. Donc, les jeunes de 15 à 34 ans, on observe cette tendance chez ce groupe d'âge qui nous inquiète pour deux raisons. La première, c'est que ces jeunes-là, même si eux ne développent pas la maladie ou s'ils sont asymptomatiques, peuvent devenir des vecteurs de transmission pour des gens qui sont plus vulnérables qu'eux. Par exemple, un jeune pourrait contaminer ses parents ou ses grands-parents et les parents ou les grands-parents, eux, développeraient la maladie et pourraient se retrouver dans une situation de santé qui est difficile. Ça s'est déjà vu, une contamination de ce type-là, et on veut à tout prix éviter ce genre de contagion entre un enfant et ses parents, ses grands-parents. Donc ça, c'est le premier élément pour lequel cette tendance-là nous inquiète. Le deuxième, bien, c'est la santé des jeunes eux-mêmes. Les jeunes aussi peuvent souffrir de la COVID-19. Bien sûr, le taux de mortalité est beaucoup moins important chez les jeunes quand on regarde là, les données, mais il serait faux de croire que les jeunes sont immunisés contre la COVID-19 ou qu'il n'y a pas de risque de complications chez les jeunes aussi. Oui, les jeunes décèdent moins de la COVID-19, mais ils peuvent eux aussi subir des séquelles à plus long terme. Donc, on fait attention, s'il vous plaît. Là, je m'adresse aux jeunes de 15 à 34 ans. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous retrouver aux soins intensifs dans un centre hospitalier ou dans un centre hospitalier tout court, mais notamment aux soins intensifs pour ceux qui pourraient développer la maladie. C'est pas drôle de se retrouver aux soins intensifs. Donc, on vous demande d'être prudent et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je veux centrer mon message. Je veux faire un appel aux jeunes, un appel à la mobilisation des jeunes, à vous tous, là, les 15-34 ans, à vos amis aussi. Je vous demande de vous mobiliser, de mobiliser votre entourage, vos amis, votre gang, les gens avec qui vous vous tenez. Je vous demande de vous mobiliser pour respecter les consignes de la santé publique. Parce que, je l'ai dit, on observe une tendance, il y a une proportion importante des nouveaux cas chaque jour qui touchent ce groupe d'âge-là, les 15 à 34 ans. Donc, vous avez en ce moment-là littéralement le pouvoir entre vos mains d'influencer le cours des choses et de faire en sorte que la situation va demeurer sous contrôle. Donc, ce n'est pas un pouvoir à prendre à la légère. Je vous demande de vous en servir à bon escient. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un tel pouvoir entre les mains. Donc, je vous demande de devenir des influenceurs à votre tour, auprès de votre entourage, auprès des gens que vous côtoyez. Si vous voyez des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, qui que ce soit, qui ne respectent pas les consignes de la santé publique, bien, rappelez-leur qu'il faut rester à saine distance, qu'il faut porter le couvre-visage. Devenez vous-même des champions de la distanciation puis du port du couvre-visage. Puis, on comprend tous que vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir vos amis, puis c'est tout à fait compréhensible. J'avais moi-même cet âge-là il y a très, très peu de temps. Et je comprends qu'on puisse avoir envie en plus aussi de revivre. Il y a eu le confinement, c'est l'été, c'est les vacances. On comprend tout ça, mais c'est possible de le faire. Il faut juste respecter les consignes. On est 10 personnes ou moins. On reste à saine distance. On porte le masque si ce n'est pas possible. Évitez évidemment là, de partager la bière, partager l'assiette, s'embrasser, se toucher. Tout ça, ça vous met à risque. Et ça explique entre autres pourquoi il y a une recrudescence du nombre de cas chez les 15 à 34 ans. Donc, je vous demande là, de participer à l'effort collectif. Vous avez ce pouvoir-là entre les mains, je l'ai dit. Il faut être tous contre un. Il faut être tous contre la COVID. Et là, en ce moment, c'est vous qui avez une grosse partie du pouvoir de protection de notre société entre les mains. Fait que je vous demande de vous en saisir, de prendre ça au sérieux et de relever le défi qu'on vous propose de devenir ces champions du respect des consignes de santé publique, puis d'influencer aussi vos amis s'il y en a qui seraient tentés de ne pas respecter les consignes de santé publique. L'autre élément qui est important, entre autres pour les jeunes, mais en général, c'est de se faire tester. C'est très, très important. J'en ai parlé en introduction. On a dépassé notre objectif de capacité de dépistage quotidien. Donc, on est amplement capable de tester toutes les personnes qui viennent se faire tester. On est capable de tester le jour, le soir, avec ou sans rendez-vous. Il y a des cliniques dans toutes les régions du Québec. Donc, si vous avez évidemment des symptômes, allez vous faire tester. Mais si vous entendez parler qu'il y a peut-être quelqu'un qui a eu des symptômes ou qui a été testé positif dans un endroit où vous êtes allé, si vous avez le moindre soupçons. Dans le doute, allez-y, allez vous faire tester. Soyez proactifs. Attendez pas nécessairement que des fois, tu peux recevoir un appel de la santé publique qui dit, bon, bien, dans tel endroit, finalement, il y a eu un cas, si t'étais là, va te faire tester. Soyez proactifs et dans le doute, allez vous faire tester. On a amplement la capacité de le faire. Dans un autre ordre d'idées, je veux dire un mot aujourd'hui sur certains dérapages malheureux qu'on a constatés dans des endroits touristiques au Québec, entre autres en Gaspésie. Vous avez sans doute vu les images et les textes qui ont été écrits là-dessus dans les derniers jours. Je vais commencer quand même en rappelant qu'on est tous extrêmement heureux de voir autant de Québécois voyager au Québec cette année. Une des conséquences positive de la COVID, s'il y en a, c'est cette opportunité touristique dont on parlait tout le printemps et qui s'avère cet été. Les gens voyagent massivement au Québec, sont amenés à voyager dans des régions, découvrir des régions où ils n'étaient peut-être jamais allés, les campings, les chalets, tout ça, il y a beaucoup de locations qui se font. Donc ça, c'est beau à voir, puis on est très heureux que les Québécois aient répondu à l'appel touristique, ça permet de faire rouler l'économie de nos régions, etc. Donc il y a des aspects très, très positifs à ça, on est très heureux de ça. Par contre, contre, il y a une minorité de touristes qui semblent avoir oublié le respect puis la politesse de base chez nous. Quand je vois, moi, des images, je trouve ça choquant de voir des images. Même, je trouve que ça brise le cœur de voir des images comme on a vu, là, des gens qui laissent des déchets sur des sites de camping, sur des plages, même des fois des déchets dans des cours d'eau. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Si on veut que tout le monde puisse profiter de l'été, profiter du tourisme, profiter de leurs vacances en toute quiétude, en toute sécurité, en toute salubrité, bien, je demande là, à la minorité, encore une fois, c'est une minorité, de gens qui, disons, se sont laissés aller de manière un peu excessive, de faire attention, de faire preuve de civisme et de respect. C'est pas drôle pour nos municipalités, c'est pas drôle pour les autres personnes qui voyagent au même endroit que nous, en même temps que nous. S'il vous plaît, là, faites attention. Si on veut pouvoir continuer de profiter de notre Québec, bien, il faut préserver notre territoire, la qualité, la salubrité de notre territoire un petit peu partout. Alors, s'il vous plaît, faites attention pour le bien-être de tout le monde. Je vais revenir maintenant sur le respect des consignes de santé publique en lien avec un autre élément qui, sans doute, a choqué plusieurs personnes dans les derniers jours et avec raison. Et là, je parle des manifestations anti-masques qui ont eu lieu en fin de semaine à Montréal et à Québec. On a vu pendant ces manifestations-là des images de manifestants qui ne respectaient pas la distanciation physique, qui ne portaient pas de couvre-visage et qui s'exprimaient et qui méprisaient carrément les efforts qui sont faits en ce moment pour protéger notre santé. Donc, moi, j'ai été particulièrement choquée, et je suis sans doute pas la seule, mais j'ai été très choquée de voir que des gens se permettent comme ça de transgresser les règles de la santé publique et se permettent en plus d'insulter des journalistes, d'insulter les équipes qui accompagnaient les journalistes et même d'aller, dans un cas du moins qu'on a vu, d'aller jusqu'à se coller physiquement sur une journaliste contre son gré alors qu'elle essaie de faire son travail puis de se maintenir à saine distance avec son couvre-visage. Ce n'est pas acceptable. Ça n'a pas de bon sens d'observer ça dans le cadre, en plus, d'une manifestation où, entre autres, on a vu là, plusieurs dérogations aux consignes de santé publique. Donc, et là, je vais être très claire, il ne s'agit pas de remettre en question le droit de ces personnes-là de s'exprimer ou de manifester. Ça, c'est une évidence que tout le monde a le droit de s'exprimer, a le droit de le faire de la manière qu'il le souhaite, a le droit de manifester. La question n'est vraiment pas là, mais personne n'a le droit de mettre en danger la santé des autres. Et malheureusement, c'est ce qu'on a pu observer en fin de semaine. Donc, je trouve ça extrêmement malheureux. On ne peut pas tolérer des situations comme ça dans la mesure où on est en train encore de marteler le clou de l'importance de respecter les consignes pour se protéger, parce qu'il peut y avoir une fausse impression, entre autres, qui est véhiculée par ces groupes-là, que la pandémie est finie, que le virus est derrière nous, parce que ça, c'est l'autre chose. Au-delà du respect des consignes de santé publique, le message qui ressort de ces manifestations-là est préoccupant. Puis encore une fois, les gens ont le droit de s'exprimer, la question n'est pas du tout là, mais je trouve ça moins inquiétant d'entendre des gens dire que la pandémie est finie et que le virus est derrière nous, que le virus a disparu. Quand on regarde ce qui se passe chez des voisins pas si loin, entre autres aux États-Unis, bien ça nous prouve que le virus il est pas disparu, puis la pandémie est pas derrière nous, puis il faut pas baisser la garde, il faut absolument continuer de respecter les consignes de santé publique. Aussi, les gens qui ne respectent pas les consignes ou qui s'expriment au mépris des consignes s'exposent, je le rappelle, à des rapports d'infraction de la part des autorités qui constateraient une telle contravention aux directives de santé publique. Donc, je veux faire un rappel, mais au-delà de l'aspect répressif, oui, on va sévir si on continue d'observer des gestes ou des comportements qui mettent en péril la santé publique. Mais je demande aux gens d'être solidaires puis de se rallier à l'effort collectif. C'est ça qu'on est en train de faire. Puis pensez bien que tout le monde est un peu tanné des fois de la COVID puis de la pandémie. Puis on a hâte que ce soit derrière nous, mais et en ce moment, le virus, il est encore dangereux. On a encore, grosso modo, chaque jour, à peu près 150, en moyenne 150 cas, là, plus ou moins 15-20. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas terminé. Puis la très, 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 très grande majorité des Québécois, puis je vais terminer là-dessus parce que c'est important de le rappeler, c'est toujours aussi impressionnant de voir à quel point la très grande majorité des Québécois respectent les consignes. Puis c'est grâce à eux que la situation est sous contrôle. C'est grâce à vous que la situation est sous contrôle. Oui, on revoit nos amis, on voyage, on profite de l'été comme on peut, mais les gens ont adopté le couvre-visage. Ça fait un peu plus d'une semaine que c'est obligatoire. La quasi-totalité des gens le portent sans problème, sans qu'il y ait de problème, sans adversité, c'est le mot que je cherchais. Et donc, c'est ça, dans les sites touristiques, ça, les gens se comportent bien. Donc, on est très impressionnés et très fiers de nos Québécois. Moi, je suis fière quand je regarde ça. C'est juste dommage, des fois, de constater qu'une petite minorité, bien que minoritaire, des fois, est très visible et très audible. Alors, il ne faut pas laisser cette minorité-là nous diviser ou détourner notre attention de ce qui est important, à savoir de continuer de se protéger collectivement, de continuer de protéger nos parents, nos grands-parents, nos jeunes. J'ai lancé l'appel aux jeunes aujourd'hui, puis je vais peut-être en fait finir là-dessus, les jeunes, s'il vous plaît. Prenez ce défi-là au sérieux. Vous avez ce pouvoir-là entre les mains en ce moment d'infléchir le cours des choses pour les prochains jours, parce que vous êtes le groupe le plus touché en ce moment. Donc, c'est à votre tour peut-être de donner un petit coup supplémentaire d'effort pour finalement tous nous protéger, protéger vos parents, votre famille, vos amis et tout ça. Alors, au message un peu inquiétant qu'on a pu entendre en fin de semaine, au comportement minoritaire un peu désespérant qu'on a pu observer en fin de semaine, répondons par une solidarité et par un effort de protection collectif encore plus fort. Et je vais terminer, là, c'est vrai, en remerciant vraiment tout le monde de la grande adhésion durablement, parce que ça fait 3-4 mois qu'on est en pandémie. Donc, l'adhésion durable aux consignes de santé publique. Un grand merci et bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances ou qui le seront cette semaine.
Un petit mot en anglais?
Oui, un petit mot en anglais.
Alors, voilà une partie du message maintenant qui sera traduit en anglais. Elle veut s'adresser à la presse anglophone et aux Québécois de langue anglaise. Bon, mobilisation des jeunes de 15 à 34 ans parce que ce groupe-là semble maintenant être le groupe cible de la COVID. Il y a des gens qui sont atteints. J'ai trouvé intéressant l'utilisation du mot « les influenceurs », devenir des influenceurs. Elle parle donc véritablement à cette clientèle des réseaux sociaux. Là.
Exactement. Yo les jeunes, comme on pourrait dire un petit peu, mais c'était un peu le message aujourd'hui de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Mais il faut dire que c'est pas la première fois quand même qu'on lance un appel aux jeunes. Aujourd'hui, il était très, très clair, ouais. Mais c'est pas la première fois depuis les derniers jours. Ça l'a même été au niveau du gouvernement canadien, mais de dire les jeunes de 15 à 34 ans, faut faire attention. Il faut vraiment une recrudescence des cas de la COVID-19 au niveau des jeunes. Et ce qu'on a demandé aujourd'hui, c'est vraiment justement d'agir en tant qu'influenceur, même on disait, essayez d'être les champions dans votre groupe d'amis et dites à vos amis de porter le masque, de respecter la distanciation sociale, parce que la vice-première ministre l'a dit, eh bien c'est une tendance qui l'inquiète, le fait qu'il y ait augmentation chez les jeunes. C'est plutôt au niveau des parties, des rassemblements privés, oui. C'est ce qu'on semble dire, des espèces de petits parties, les jeunes également qui vont plus dans les bars. Alors, il faut vraiment faire attention. Et elle a dit quand même deux raisons pourquoi ça l'inquiète, cette tendance-là chez les jeunes. Ben, d'abord, c'est que même s'ils ne développent pas nécessairement des symptômes, la COVID-19
peut être des... sont importants.
Exactement, et peut être des vecteurs également de transmission de la COVID-19. Il faut penser à vos parents, à vos grands-parents, parce que vous pourriez, voilà, donc transmettre la COVID-19. Et même si vous êtes en santé et que vous attrapez la COVID-19, eh bien, ça peut être quand même dangereux. Autre point qu'elle a adressé aujourd'hui, c'était, voilà, on peut aller à la période de questions, ouais. Je ne me trompe pas.
Question. On va commencer par le micro ici, numéro 2. Bénédicte Lebel.
Bonjour. Alors, quand vous dites, Mme Guilbeault, que vous allez sévir, on a vu la manifestation, évidemment, c'est à l'extérieur, le port du masque n'est pas obligatoire. Il y avait clairement des gens qui respectaient pas la distanciation sociale. Pouvez-vous nous donner plus de détails, des exemples de ce qui va être fait les prochaines fois, possiblement?
Oui, bien, on est en train de travailler, justement, sur le resserrement des mesures répressives à notre disposition pour intervenir dans ce genre de situation-là. Il faut faire la différence aussi. Là, on parle de manifestations. Il y a eu d'autres manifestations dans le passé où les gens se sont très bien comportés, qui portaient sur tout autre enjeu, là, des enjeux tout autres que la COVID-19. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. L'enjeu même de la manifestation était une protestation contre une consigne qu'on a mise en vigueur récemment, à savoir le port du couvre-visage obligatoire. Donc, on va s'adapter, mais chose certaine, on ne peut pas tolérer des situations comme on a vu, là, une collègue à vous, entre autres, là, qui physiquement, carrément, s'est fait encercler. Un autre collègue aussi avec son équipe qui a subi certains préjudices. Donc, on est en train de réfléchir avec mon collègue de la Santé, avec d'autres partenaires, d'autres collègues gouvernementaux aussi, à la façon dont on va resserrer ces mesures répressives qu'on souhaite mettre à la disposition. Il faut dire qu'il existe déjà des leviers dans les décrets actuels. Quand même, les policiers peuvent intervenir. On parle de 2 mètres si possible. Donc, si quelqu'un clairement se comporte, comme je disais, au mépris des règles de santé publique, il y a déjà là des leviers quand même d'intervention aussi. En ce moment, il y a déjà des amendes qui peuvent... c'est-à-dire qu'il y a des rapports d'infraction qui peuvent être remis. Et donc, c'est pour ça que je l'ai dit, là, déjà, les gens s'exposent à des rapports d'infraction s'ils se comportent en contravention des règles de santé publique. Mais on est quand même en train d'évaluer. On avait justement une discussion ce matin, entre autres là-dessus, avec mes deux amis qui sont ici et d'autres personnes, sur la façon dont on peut peut-être resserrer les mesures répressives à notre disposition.
Ma sous-question peut-être pour M. Dubé, dans l'optique d'une deuxième vague, où est-ce qu'on en est rendu, question personnelle? Est-ce qu'on a assez de personnel? Est-ce qu'on a assez de matériel de protection aussi, de masques par exemple, de blouses de protection? Parce qu'au départ, on se rappelle, c'est ça qui avait manqué et ça avait joué quelque chose. Là, à l'aube possiblement d'une deuxième vague, on en est où présentement?
Bon. Il y a quelques aspects à votre question, par exemple, sur le personnel. Je pense que tout le monde est bien au courant qu'un des grands facteurs de difficulté était dans les CHSLD et le manque de personnel. Alors, c'est sûr qu'avec les 10 000 personnes qui sont en ce moment en formation et qui vont être disponibles, qui le sont déjà maintenant dans les cours pratiques, qui vont être disponibles d'ici le mois de septembre, ça déjà c'est un enjeu pour nous qui est à peu près réglé. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On a un personnel... infirmiers, là, que ce soit des infirmières ou des infirmières auxiliaires, qu'on apprécie énormément le travail qui a été fait dans les 4 premiers mois, mais qui sont beaucoup en vacances en ce moment. Fait que là, je pense que l'important, c'était de reposer notre personnel. Est-ce qu'on est là-dedans en ce moment? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est parfait? La réponse, c'est non. Mais je pense qu'on a beaucoup de personnel, qu'on est content qu'il soit en vacances en ce moment avec le calme que l'on perçoit dans les hospitalisations. Rappelez-vous qu'on en a à peu près 200. Là. C'est pour ça qu'on vous informe régulièrement. Donc, c'est sûr qu'il y a une accalmie en ce moment du côté des hospitalisations, ce qui nous permet de reposer notre personnel qu'il méritait grandement. Concernant le personnel, concernant le matériel, bien, c'est sûr qu'on était très, très serré au début, puis on l'a expliqué, mais en ce moment, tous nos principales pièces d'équipement, que ce soit les gants, que ce soit les blouses, que ce soit les masques et les 2 types de masques, on a de 40 à 50 jours en avant de nous. Et on a, comme vous savez aussi, c'est assuré que dans certains cas, la plupart de ces produits-là vont être maintenant fabriqués au Québec au cours des prochains mois. Donc, je pense que sur la question du matériel, c'est plus un enjeu. Ce qui nous reste probablement à finaliser, c'est vraiment de s'assurer qu'on a la meilleure gouvernance, puis j'y reviendrai dans les prochaines semaines, la meilleure gouvernance entre nos équipes de CIS et de CIUS, particulièrement sur l'île de Montréal, où tout le monde voulait bien faire les choses, mais qu'on s'est rendu compte, là, et on est en train de faire notre post-mortem là-dessus, c'est de s'assurer qu'on va être capable d'avoir des équipes qui travaillent bien ensemble. Je vous donne un exemple, puis sans trop rallonger la réponse, mais on l'a vu à Saint-Jérôme, on a eu une éclosion il y a 2 semaines. Bon, je le dis, je pense que ça a été une belle pratique de voir comment on peut réagir mieux maintenant avec ce qu'on appelle des SWAT teams, avec une équipe qui nous est venue du CHUM et qui sont arrivés avec des experts qui rentrent sur l'hôpital et qui nous disent, écoutez, là, il y a eu une éclosion. Voici, nous, avec notre expérience des derniers mois, comment on peut vous aider. Parce que chaque fois que ça arrivait dans un établissement, que ce soit un CHSLD ou un CH, un centre hospitalier, c'était souvent pour l'équipe locale la première expérience. Alors, cette, cette gouvernance-là où on permet de mettre les gens ensemble, c'est nouveau. On a appris beaucoup de meilleures pratiques. L'Estrie l'avait fait très tôt dans le processus. Donc, je peux vous dire que notre défi, là, c'est de trouver c'est quoi les angles morts de la prochaine fois. Mais si on parle de personnel, comme vous avez dit, si on parle de l'équipement, si on parle de cette gouvernance-là, on est en train de travailler et on est assez dur envers nous-mêmes de bien faire un post-mortem sur ces différents points-là pour être sûr qu'on limite le plus l'angle mort au cours des prochains mois.
On va passer au micro 1, s'il vous plaît, si vous voulez s'identifier.
Oui, bonjour. Nora Lamontagne du Journal de Montréal. Ma question est pour Mme Guilbeault. Je veux revenir sur l'incident qu'a vécu ma collègue journaliste pendant la manifestation anti-masque, où elle s'est fait enlacer par deux inconnus au mépris de toute distanciation physique et de son intégrité physique aussi. Et dans ce cas-ci, ça a été filmé en direct en plus, mais ça peut aussi arriver dans d'autres contextes. Et donc, j'aimerais savoir quels sont les recours pour dans les cas où les droits d'une personne sont brimés par des gens qui ne respectent pas la distanciation physique. Est-ce que c'est on porte plainte à la police? Est-ce qu'on intente une poursuite?
Les deux recours existent. Madame peut porter plainte à la police. Elle peut aussi intenter une poursuite au civil, je présume, si elle le souhaite. Mais oui, il y a la possibilité de porter plainte, toujours.
D'accord. Ma deuxième question est pour M. Dubé. Le gouvernement s'est donné jusqu'au 1er août pour décider comment sévir contre les particuliers qui refusent de porter un masque à l'intérieur des établissements publics. Je voulais savoir, à l'heure qu'il est, quelles sont les options qui sont sur la table?
Bon, je vais commencer la réponse, puis peut-être Dr Massé pourra compléter, parce que, rappelez-vous, quand on a annoncé ces mesures-là, on avait dit effectivement ce que vous venez de résumer, qu'on allait voir de quelle façon il y a une obligation, je le répète, je vais faire la différence entre les amendes et l'obligation. La responsabilité, c'est une responsabilité de tous. C'est autant du commerçant que de la personne de porter le masque lorsqu'elle est dans un lieu public. Alors ça, c'est la question de la responsabilité. Elle est conjointe. Ce qu'on avait dit au début qui était plus facile, donc quand on a fait l'annonce, qui était plus facile de demander au commerçant de l'appliquer. Hein? Et c'est pour ça qu'on avait mis la responsabilité des amendes sur eux. C'était pas un choix facile, mais il fallait le faire comme ça. À la lumière de ce qu'on voit en ce moment, il y a vraiment une adhésion, à part quelques exceptions, il y a vraiment une adhésion des gens à le porter. Et on l'a vu, mais si on sentait qu'on doit aller jusqu'à des amendes personnelles, on ne le cachera pas de le faire. On essaie d'avoir, puis peut-être que M. Massé pourrait nous dire, mais on a fait beaucoup d'inspection au cours des deux dernières semaines, particulièrement sur le port du masque. Et je vous dirais qu'on n'hésitera pas, et je vais être très, très clair aujourd'hui, qu'on n'hésitera pas à donner des amendes sur une base personnelle si les gens ne respectent pas la consigne à l'intérieur des lieux publics. Mais je voudrais peut-être demander au Dr Massé de voir d'autres éléments. Si, dans le
bien. À l'instar de ce qui s'est fait pour, par exemple, la ceinture de sécurité ou le tabac, on a vraiment voulu faire modifier la norme sociale. On a voulu, le moins possible, avoir une approche répressive puis dire aux gens, c'est un comportement sécuritaire pour les gens qui nous entourent. Puis on veut que les gens l'adoptent comme l'hygiène qui est recommandée pour tous les contacts auprès des personnes. Ça fait partie des mesures de base. Et on voulait donner une période où est-ce que les gens pourraient avoir un certain temps pour s'habituer, le porter, puis ne pas réprimer. Mais vous avez raison, il faut aussi que des fois, il y ait conséquences pour les gens qui ne veulent pas du tout, et cette réflexion-là, elle est en cours actuellement. Donc, c'est pas parce que initialement l'intention n'était pas que les gens ne soient pas, d'abord responsables, comme ça a été mentionné, mais aussi que ces gens-là ne soient pas éventuellement tenus de devoir répondre de leurs actes. Mais dans un premier temps, c'est beaucoup plus facile de demander et nécessaire de demander aux gens qui organisent ces lieux-là de s'assurer que c'est fait. Donc, puis on a fait ça dans le passé et ça a toujours bien fonctionné. C'est vraiment la minorité des gens qui refusent d'accepter ces comportements-là.
Peut-être si je peux me permettre de rajouter un point. Dans ce dossier-là spécifiquement, on veut vraiment travailler avec les équipes de santé publique régionales. Puis là, je pense particulièrement à celle de l'île de Montréal, parce que lorsqu'on met des sanctions plus spécifiques, puis je vous le dis, on va être prêt à aller là en fonction de certaines recommandations qu'on aura, soit de santé publique nationale ou santé publique, pour être capable aussi de bien implanter ces mesures-là. Parce que c'est beau mettre une mesure, mais il faut avoir le personnel pour le faire. Et c'est pour ça que dans les prochains jours, prochaines semaines, si on voyait qu'il faut aller là, il faut que les santé publiques, par exemple celle de Montréal, travaillons ensemble. On s'en est parlé lorsqu'on avait annoncé la première mesure, puis qu'on avait dit qu'au besoin, on irait là, qu'on allait travailler ensemble. Donc, je vous rajoute que ce qui va se passer à Montréal ou pour la CMM va être très important aussi pour avoir les inspecteurs, pour être capable de faire plus facile avec eux.
Puis en complément, Monsieur le ministre, comme on l'a mentionné, il y a plus que 1000 agents de promotion qui ont été engagés par le CNASST pour être capables de faire les interventions. Et il y en a à peu près une centaine qui sont faits par jour depuis qu'on a fait mis en place ces mesures-là. Donc, il y a vraiment des interventions, des rappels, des messages aux gens pour dire qu'on doit absolument... le faire. Pour ceux qui ne le font pas, c'est la minorité, encore une fois.
Stéphanie Marin.
Oui, bonjour. Stéphanie Marin, de la Presse canadienne. Madame la vice-première ministre, je voulais vous reparler des manifestants anti-masques qu'on a vus en fin de semaine. Est-ce que vous avez un plan pour aller les rejoindre, ces gens-là, puis les convaincre? Parce qu'effectivement, le message qu'ils semblent croire et véhiculer, c'est que la pandémie, c'est fini, le masque ne sert à rien. Avez-vous un plan pour eux?
Oui, j'ai plusieurs masques. Mais oui, c'est une bonne question que vous apportez parce que c'est pas simple d'essayer de convaincre des gens qui ont un tel discours. Mais c'est sûr que tout ce qu'on fait comme action de communication générale, le point de presse qu'on fait aujourd'hui, on fait énormément aussi de communication sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux, nous les ministres, sur ceux des plateformes là, principales, les endroits où on peut mettre de la publicité puis tout ça. Fait qu'évidemment, il y a tout ce plan de communication-là général du gouvernement pour essayer de convaincre et dans l'ensemble, je l'ai dit, la grande majorité des citoyens ont adhéré depuis le début. Donc, on tient pour acquis que les objectifs de communication sont en bonne partie atteints dans le sens où les gens ont compris, puis adhèrent, puis tout ça. Il reste cette frange minime, récalcitrante. C'est sûr que si vous avez écouté comme moi certains discours, ça devient difficile des fois de répondre des éléments rationnels à certaines choses parce que, bon, il y a toutes sortes de choses qui se sont dites, mais je pense qu'il faut rappeler le message, il faut marteler. Quand on voit aussi des fois des reportages que vous faites, vous les représentants des médias, sur des cas vécus, des gens qui l'ont eu la maladie, qui s'en sont remis, mais qui des fois ont encore des séquelles ou dont un des proches ont vécu la maladie, ça peut-être graduellement amener même les derniers récalcitrants à se rendre compte que c'est pas imaginaire, c'est pas un complot, c'est pas dans le 5G, là, ça se passe pour vrai, dans des lits d'hôpitaux, je l'ai dit tout à l'heure, je m'adressais aux jeunes, mais ça vaut pour tout le monde, personne n'a envie de se retrouver aux soins intensifs. Donc, ces personnes-là, ne sont pas immunisés contre le virus, pourraient tout aussi bien l'attraper, développer la maladie, puis se retrouver dans une situation de santé pénible, entre autres en centre hospitalier. Fait que moi, j'ai envie simplement de leur répéter ça, de leur répéter que ce sont des êtres humains comme tous les autres membres de la société et qu'ils sont tout aussi exposés à la contamination que d'autres personnes. Mais si eux-mêmes considèrent que ce n'est pas important leur propre santé, bien, de grâce, faites-le pour les autres, puis évitez de contaminer les autres. Ces gens-là, ils ont des parents, ils ont des enfants, ils ont des amis. Tu sais, c'est pour les autres aussi, là. Puis je ferai appel, en discutant avec vous, je fais appel à l'entourage de ces gens-là. S'il y en a, là, qui se rendent compte, qui ont peut-être un ami, un cousin, un collègue de travail qui fait partie de ces groupes-là de protestataires, bien, essayez, tu sais, répétez, essayez de le convaincre, expliquez-lui qu'au moins pour le bien des autres, pour le bien de son équipe, pour le bien de tout le monde, bien, essayez de vous conformer, pas essayez, c'est-à-dire conformez-vous aux consignes de la santé publique. Il y en a que j'entends dire, moi, je préfère ne plus sortir de chez nous plutôt que de me conformer puis de porter un masque puis tout ça. Bon, si au moins ils restent enfermés chez eux. Déjà, le risque est réduit de beaucoup, mais je ne suis pas sûre que c'est réaliste à long terme de penser qu'on puisse ne plus sortir de chez soi. Donc, la règle, elle vaut pour tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne en santé publique. Si tu ne veux pas te protéger toi-même, au moins protège les autres et joins l'effort de protection collective. C'est comme ça qu'on va réussir. C'est la seule façon. C'est si tout le monde joint l'effort de protection collective.
Eh bien, voilà, c'était la vice-première ministre du Québec, Mme Guilbeault, et ministre de la Sécurité publique, qui est allée, encore une fois, de la répétition du message de la santé publique, des règles sanitaires, mais aussi à le ministre de la Santé, qui lui a dit, Sabrina, écoutez, on va voir la gouvernance de tout ça, parce que s'il y a une deuxième vague, on peut assurer à peu près 40-50 jours de matériel de sécurité en santé, et il faut que le personnel ait le temps de se refaire, parce qu'il y en a qui sont fatigués, et les autres, septembre, être formés. Alors, on est entre les deux.
On est vraiment là-dedans. On est en train, évidemment, de planifier cette possible deuxième vague. Et ce qu'il a dit également, c'est qu'on va tenter de voir tout vraiment les angles morts qu'on a peut-être manqués lors de la première vague. Et c'est normal, c'est-à-dire que c'était une première pandémie qu'on vivait au Québec ici depuis vraiment extrêmement longtemps. Alors, on veut vraiment s'assurer qu'on soit réellement très, très prêt pour cette possible deuxième vague qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, prochains mois ici, du côté du gouvernement du Québec. Il y a évidemment eu des questions relativement à ces manifestations qui ont eu lieu du côté de Québec, Montréal.
Et quoi faire pour Séville?
Exact. Et ce qu'on va faire avec ces gens-là qui ne veulent pas nécessairement respecter la distanciation sociale et également le port du masque? Ce qu'on nous a dit, c'est qu'on est en train de travailler actuellement à savoir est-ce qu'on va pouvoir remettre des amendes? Mais là encore, là, c'est compliqué. Il faut qu'on appelle les policiers.
Et comment tu fais ça?
Exactement. Merci. Qui gère ça?
Merci beaucoup, Sabrina.
Ça fait plaisir.
Sabrina Rivet qui était avec nous. Retour de la pause, ça va être intéressant. Quand on parle à une foule, quand on parle à un grand nombre de personnes, à qui on parle? Est-ce qu'on se fait un profil d'une population et on y va petit peu pour que le message soit accepté? Ça va être Sonia Lupien qui est avec nous. Elle est directrice scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.